L'invité du grand entretien de la matinale est la numéro 2 de la CFDT, secrétaire générale adjointe, pour le dire exactement. Léa Salamé, dans une dizaine de minutes, vos questions auditeurs, amis auditeurs au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Véronique Descac, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Deux conflits longs sont en cours en ce moment à la SNCF et chez Air France, des conflits menés par des intersyndicales qui peuvent avoir des divergences, mais qui ont tenu et qui restent unis. Alors pourquoi cet esprit intersyndical ne se retrouve-t-il pas dans les rues de Paris, où les syndicats, selon la formule consacrée, vont marcher en ordre dispersé, et la CFDT, elle, ne va pas marcher du tout?
C'est rare d'ailleurs que la CFDT participe à des défilés le 1er mai. On le fait quand il y a des grands moments dans la vie syndicale ou dans la vie du pays. On l'a fait en 2002 entre les deux tours, quand il y avait le Front National entre les deux tours. On l'a fait aussi en 2009 parce que c'était juste après la crise financière, cette espèce de cataclysme qui avait touché le pays, et on avait le sentiment que les salariés étaient en état de sidération devant ce qui se passait, d'incompréhension, de sidération. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de salariés dans cette manifestation en 2009. Alors pourquoi pas cette année, par
exemple ?
Vous
ne croyez plus à ces rituels ?
C'est pas nous, ce sont les salariés. Encore une fois, les organisations syndicales, elles sont le porte-voix des salariés. Et est-ce que les salariés dans les entreprises, ils nous demandent d'aller faire des manifs le 1er mai ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, si on les y invite, en vérité, ils viennent pas. Ce sont des défilés militants le 1er mai. Air France, vous l'avez dit, mais encore plus à la SNCF, c'est tout à fait différent. Là, on écoute ce que disent les salariés. Et les cheminots, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, il faut se battre pour avoir des garanties, parce qu'on va s'ouvrir à la concurrence. Donc il faut avoir un statut de haut niveau, il faut avoir des garanties si on est transféré d'un statut à l'autre. Et à Air France, c'est encore autre chose. À Air France, justement, là aussi, on écoute les salariés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? La majorité, on le croit, des salariés d'Air France, en tout cas ceux du sol, ils nous disent, le conflit des pilotes, c'est quand même un truc un peu corpo. Attention.
On va venir en détail à ces deux dossiers, SNCF et Air France, dans quelques instants. D'autres questions tout de même sur le moment dans lequel se trouvent tous les syndicats en France. Parce qu'une chose leur est commune, c'est leur analyse de la manière dont ils sont traités par l'exécutif. Négation des corps intermédiaires, dit Laurent Berger pour la CFDT, la CGT et FO disent la même chose avec leurs propres mots. Si l'attaque est commune, pourquoi votre réponse à tous ne l'est-elle pas ?
Eh bien parce que justement, l'attaque, elle est, je dirais, encore plus violente pour la CFDT, parce que la CFDT, c'est un syndicat donc qui veut, par la construction de propositions, par l'effectivité des mesures sur le terrain, par la protection réelle et pas la protection fantasmée des droits acquis il y a 50 ans des salariés, mais par la protection réelle, par la conquête de droits nouveaux, la CFDT, elle veut être dans la construction, dans la proposition et dans le rapport de force, je dirais, par l'intelligence, un peu frappe avec ta tête plutôt que peut-être marche avec tes pieds. C'est peut-être encore pour la CFDT que c'est plus difficile la situation que nous fait le président de la République aujourd'hui. Parce que lui, finalement, il se satisfait bien d'avoir des syndicats un peu du vieux monde qui mobilisent, qui manifestent et qui n'obtiennent rien. Qu'est-ce qui embête Emmanuel Macron ? C'est d'être obligé de discuter. Or là, on l'a un peu fait dans la négociation sur l'assurance chômage, dans la négociation sur la formation.
C'est une vision optimiste.
Pas tant que ça, parce que d'abord, on a obtenu des choses. La négociation formation professionnelle, le financement de l'accompagnement des salariés, par exemple, qui sont en transition professionnelle. Dans la négociation assurance chômage, on a sécurisé le droit des démissionnaires, etc.
Mais il semble y avoir...
Qu'est-ce que dit le Conseil d'État, par exemple ? Le Conseil d'État, quand il regarde la loi Avenir professionnel, il dit... cet exécutif, il dit « Oulala, attention, mais vous êtes en train de bouleverser les fondamentaux de notre système de protection sociale », ce que la CFDT dit depuis le début, et il lui dit deux choses. Il lui dit « Prenez un peu de recul d'abord avant de tout fiscaliser, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire de la protection sociale », et il lui dit aussi « Attention, vous ne pouvez pas tout faire et n'importe quoi sans les corps intermédiaires, et en particulier sur l'assurance chômage ». Il dit « Attention, là, c'est la négociation, ce sont les organisations syndicales et patronales qui ont la priorité ».
Mais j'aimerais essayer de comprendre, je dirais, historiquement ou théoriquement, ce qui se passe. Comment expliquez-vous la marginalisation des corps intermédiaires depuis un an, depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? L'exécutif s'en défend, mais semble la rechercher, cette marginalisation, voire la théoriser en off.
Ouais, il y a plusieurs explications d'ailleurs. D'abord, Emmanuel Macron, il a une vision très monarchique et même très monarchie absolue de son pouvoir. Il écrit ça dans le livre qu'il a fait pendant la campagne qui s'appelle Révolution. Il explique que pour lui, la France, ce qui fait la France, c'est la construction de l'État, contrairement à par exemple ce qui fait l'Angleterre, il explique que c'est plutôt le commerce maritime, l'ouverture vers l'extérieur, etc. La France, c'est la construction de l'État. Donc il veut incarner ça, la construction d'un État fort, monarchique, comme on disait sous Louis XIV, vous opinez, c'est-à-dire chacun donne son opinion, mais moi, à la fin, je décide tout seul. Il y a un deuxième élément, c'est que quand même sa culture, son entourage, ce sont des hauts fonctionnaires. Et donc c'est une culture très technocratique. Je sais mieux, moi, de là-haut, ce qu'on doit faire, et j'ai plus de chances de réussir que les gens sur le terrain qui... Voilà. Les gens sur le terrain, faut un peu les bousculer, faut les secouer, faut déstabiliser un peu les acteurs, et puis moi, de là-haut, je sais tout. Et c'est exactement l'inverse de ce que pense la CFDT. La CFDT, elle pense que...
Elle est bien orpheline, là.
Elle est orpheline, c'est vrai. Des réformes, certes, il faut en faire. Nous, on n'est pas pour le statu quo. On pense qu'il faut faire des réformes. Mais on pense aussi que les réformes, elles sont effectivement réelles. Elles se mettent en œuvre vraiment, pas seulement parce qu'on a fait des lois, mais parce qu'on les fait partager, parce qu'on les fait vivre sur le terrain. Et ça, c'est nous qui faisons ça.
Toujours pour comprendre, Véronique Descaques, est-ce que vous prenez, ou au moins vous entendez une partie de la critique qui est faite, à en croire toujours ces propos off cités largement dans la presse, cette critique qui est faite aux syndicats, mettez un sujet sur la table, faites entrer les syndicats, produisez de l'eau tiède, et surtout ne réformons rien. C'est ça ce qui semble, c'est cet imaginaire-là, voire ce traumatisme-là du précédent quinquennat qui semble aujourd'hui guider l'action de l'exécutif.
On a pas le temps dans le cours de l'émission comparer la France, l'état de son droit social, ses règles sur par exemple les plans sociaux, sur la protection des parcours professionnels, etc. Comparer la France de 2008 et celle de 2016, de 2017. Et vous allez voir tout ce qui a changé dans le modèle social français, tout ce que grâce à la négociation, on a fait évoluer, généralisation de la complémentaire santé, droit rechargeable à l'assurance chômage, négociation des plans sociaux, enfin la liste serait trop longue pour qu'on la fasse
ici. Vous êtes
donc nous, non seulement on a réformé,
de la réforme.
Alors peut-être pas avec des trucs qui font des gros éclats, on n'a pas fait de Big Bang, mais on a considérablement changé le paysage social et le droit qui régit les relations sociales dans ce pays. Mais là, c'est le contraire. Le Big Bang de la formation professionnelle, c'est quoi? C'est que maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont cassé tous les tuyaux et que pendant un an, peut-être deux, eh ben, ils sont incapables de faire ce que pourtant ils avaient promis, c'est-à-dire organiser la montée en compétences des salariés. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a tout cassé, il faut reconstruire et que ça prend du temps.
La SNCF, la grève à la SNCF reprend les 3 et 4 mai. La situation, Véronique Descaques, semble totalement bloquée. Comment sortir par le haut de ce conflit aujourd'hui?
Elle a été bloquée, on a un espoir qu'elle se débloque puisque le Premier ministre reçoit les organisations syndicales et patronales le 7 mai. Et donc, comment ça peut se débloquer? D'abord en étant extrêmement clair sur la reprise de la dette, ce qui n'est encore pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Celui qui a compris le communiqué de Matignon sur on la reprend un peu, tout, beaucoup, comment, qui paye, etc.
Si la clarté vient, vous sortez de l'intersyndicale ou pas?
Non, mais le sujet n'est pas de sortir de l'intersyndicale, le sujet c'est de savoir ce qu'on va pouvoir obtenir pour les cheminots qui sont extrêmement inquiets sur la situation qui peut leur être faite avec l'ouverture à la concurrence. Alors, il y a le sac à dos social, sur lequel il y a encore des choses à discuter. Si, par exemple, je reviens après avoir été transféré dans le cadre d'une ouverture à la concurrence, est-ce que je retrouve mes droits? Mais surtout, il y a cette histoire de la convention collective. Nous, ça fait des mois qu'à la CFDT, on essaye de négocier avec la chambre patronale une convention collective qui pourrait faire en sorte que les cheminots, ils n'auraient pas peur d'être transférés. Or, la chambre patronale ne veut pas. Elle freine sur ces négociations. Donc c'est pour ça qu'on a dit le 7 mai, il ne faut pas seulement qu'il y ait les syndicats à Matignon, il faut aussi qu'il y ait la chambre patronale qui représente la branche, pour que la branche soit contrainte de négocier cette convention collective.
Et vous avez espoir que le 7 mai, dès lors que Édouard Philippe reprend en main une partie du dossier, les choses puissent se débloquer?
On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin, en tout cas, il faut se donner une chance de le faire, et l'objectif de la CFDT n'est pas que la grève dure sans fin. L'objectif de la CFDT, c'est d'obtenir des garanties pour que ça puisse s'arrêter.
Vous pensez qu'elle peut durer cette grève et se durcir encore et passer passer de la grève perlée à une grève plus classique, reconductible tous les jours, reconduite tous les jours?
C'est pas impossible, mais pour ça, pour que ça n'arrive pas, il faut que le gouvernement, d'une part, sorte de l'ambiguïté, et il faut que d'autre part, la chambre patronale des métiers du ferroviaire, elle rentre véritablement dans les discussions.
Expliquez-nous en quelques mots la position très offensive sur Air France maintenant de la CFDT qui pointe les syndicats de pilotes de ligne comme étant une sorte de noblesse de l'entreprise qui défendrait des intérêts strictement catégoriels sur le dos des autres professions. Prise en otage, a dit Laurent Berger, de l'entreprise par ce syndicat et cette catégorie de personnel.
Oui, il y a beaucoup de colère et beaucoup d'amertume chez les salariés, en particulier les salariés au sol, mais pas que, chez l'ensemble des salariés d'Air France qui sont extrêmement inquiets de l'avenir de leur entreprise, qui voient bien que la concurrence les met de plus en plus en difficulté et qui ont l'impression qu'une catégorie socio-professionnelle très réduite, les pilotes de ligne qui sont pas parmi les plus malheureux ni du pays ni de l'entreprise, fort du pouvoir qu'ils ont, parce qu'ils sont évidemment une place stratégique, on fait pas voler des avions si on n'a pas de pilote, hein. Ils exercent un espèce de chantage sur l'entreprise, mais sur l'ensemble du corps social de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, même si la CFDT l'a pas demandé, elle se dit, malgré tout, ce référendum, c'est l'occasion de vérifier auprès des salariés ce qu'ils en pensent.
Donc votez oui.
Donc la CFDT appelle à voter oui au référendum.
À soutenir le PDG. Les propos de Laurent Berger, et je donne la parole tout de suite à Léa Salamé, les propos de Laurent Berger ce matin, Air France est en danger à cause d'un jusque-boutisme d'une corporation, les pilotes donc, qui entraîne la compagnie vers le fond. Je persiste et signe. Il est 8h33. À vous Léa Salamé.
Bonjour, le rapport Borloo a été remis la semaine dernière. Il a été reçu assez fraîchement par le gouvernement et par les membres de la majorité. Est-ce que vous le soutenez, ce rapport, ce énième rapport de la dernière chance pour les banlieues?
Oui, parce que dans l'identité de la CFDT, il y a aussi la lutte contre les inégalités. Et on voit bien que la situation qui est faite aux citoyens et aux jeunes, aux salariés dans les banlieues ne peut plus durer. C'est même potentiellement explosif. À la CFDT, on organise régulièrement des forums pour l'emploi où on fait se rencontrer des salariés qui recherchent de l'emploi, des jeunes qui recherchent un emploi, parfois très diplômés, et des patrons, des directeurs des ressources humaines. Tellement ces deux mondes ont du mal à se parler. Vous vous rendez compte qu'il faut des associations, des organisations syndicales pour faire se parler le monde de l'entreprise avec le monde des banlieues, alors même que parfois les jeunes ont non seulement beaucoup de compétences, mais aussi parfois même ces compétences, elles sont reconnues dans des diplômes.
Mais les critiques sur le rapport Borloo, c'est de dire qu'il demande Borloo encore des milliards et des milliards et des milliards pour les banlieues. On a déjà donné des milliards, ça n'a rien changé.
Ouais, on touche là une autre limite de ce gouvernement. On disait tout à l'heure qu'il était technocratique. Il est aussi très managé par les orientations qui viennent de Bercy. Et donc tout est analysé en termes de coûts. Combien ça va coûter? En revanche, moi je pense que ce qui coûte cher à la société française, c'est ce délitement du lien social, ce délitement de la cohésion sociale. Et ça, on ne peut plus l'accepter aujourd'hui.
Comment vous expliquez, un an après son arrivée au pouvoir, qu'Emmanuel Macron arrive finalement à appliquer son programme quasiment sans opposition?
Bon, d'abord, il y a une forte légitimité liée à la proximité de l'élection. Il y a un certain nombre de choses qu'il a annoncées dans son programme, y compris la place qu'il entendait ne pas réserver aux organisations syndicales. Donc il y a une forme de... Je pense que dans le corps électoral, en tout cas c'est comme ça, je pense que le vivent beaucoup de militants CFDT, on se dit, c'est une espèce de dernière chance avant les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu cette grande frayeur quand même de mai l'année dernière, de se dire, il faut donner une chance au pays de réussir, parce que sinon on sera acculé ou à la révolte face aux inégalités, ou aux extrêmes, l'extrême droite ou l'extrême gauche.
C'est pour ça que votre opposition à vous, à Laurent Berger, reste plutôt modéré, parce que vous vous dites sinon c'est les
extrêmes. D'abord, nous,
il
y a une reconnaissance de la légitimité de la démocratie politique, ce qui n'empêche pas qu'on revendique une place pour la démocratie sociale à l'intérieur de la démocratie politique. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on en veut beaucoup au président de la République, c'est qu'on a le sentiment qu'il joue quand même avec ses étincelles. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, il est technocrate, il est monarchiste, il est machiavélique aussi. C'est-à-dire, il cantonne le débat politique, mais aussi du coup les syndicats aux extrêmes. On a l'impression qu'il se satisfait d'attiser les radicalités et qu'il veut faire table rase de tout ce qui est de tout ce qui pourrait amener du dialogue et de la bienveillance. Je reprends à volontiers ce mot qu'il utilisait entre les deux tours et qu'il n'utilise plus maintenant.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous dites monarchique, technocratique, vous dites machiavélique ce matin. Est-ce que c'est de la déception qui parle? Est-ce qu'au fond, pendant la campagne, quand vous entendiez Emmanuel Macron, vous avez pensé peut-être qu'il était un social-démocrate suédois et vous avez la douche froide aujourd'hui, qu'il prenait une forme d'horizontalité?
Un social-démocrate suédois, non, parce qu'il a toujours dit les corps intermédiaires, je m'en passerai. On se disait, il dit ça, mais il pourra pas. Et le fait est qu'on est en train de s'apercevoir avec les deux réformes en cours, la forme pro et assurance chômage qui ne peut pas complètement, parce que sinon ça ne marche pas. Non, mais je pense que Il y a des choses dans le discours d'Emmanuel Macron qui peuvent nous convenir. Son projet pour l'Europe, par exemple, l'idée de renforcer la construction européenne, on se dit, pourquoi pas si ça marche ? En faudra-t-il encore que ça marche ? La déception, elle vient parfois de l'écart entre le discours et puis les mesures. Moi, je me souviens d'avoir été un petit peu stupéfaite de la grande interview qu'il avait donnée au Point. La vision qu'il porte d'une société ouverte, de la construction européenne, etc., on pourrait y adhérer. Et puis quand il traduit ça en mesures concrètes, effectif qui met en œuvre tous les jours, on se dit mais en fait c'est des vieilles lunes ultralibérales qui ressortent du placard. Donc il y a quand même un écart entre le projet qui présente bien et puis la façon dont il pratique le pouvoir qui est tout à fait désagréable.
Certains franchissent le point Thatcher en disant la SNCF sera pour Emmanuel Macron ce que les mines furent pour Margaret Thatcher, à savoir un moment vraiment décisif au-delà duquel on pourra gouverner comme on le souhaite. Que pensez-vous de ce genre de comparaison historique ?
Si c'est ça, sa tactique plutôt que sa stratégie, ça serait consternant. Encore une fois, c'est tendre la société française, alors que je crois, moi, que ce qu'a compris la société française en mai de l'année dernière, c'est qu'elle avait besoin de dialogue, d'apaisement et de bienveillance.
Allez, on passe au standard d'Inter, 01 45 24 7000. Bonjour Alain.
Allô ?
Oui Alain, on vous écoute.
Oui, bonjour et bon 1er mai à tous.
Merci à vous aussi.
Écoutez, quand j'entends la secrétaire adjointe de la CFDT, les bras m'en tombent, si j'ose dire. Parce que au-delà de ce beau discours, refuser l'union syndicale à 1er mai aujourd'hui pour lutter contre les réformes vraiment antidémocratiques de ce gouvernement et les positions du MEDEF, et préférer aller au cinéma, ça j'avoue qu'il faut quand même le faire.
Seriez-vous CGT, Alain, par hasard?
Évidemment, je suis à la CGT, mais oui. Je ne suis pas un sectaire.
Non.
La preuve, c'est que cet après-midi, je peux vous dire que s'il y a des amis, des camarades de la CFDT dans le cortège, j'irai les saluer, comme je l'ai fait quand j'ai vu des camarades de la CFDT avec les cheminots. Mais entendre, et en plus, la fin du discours de la représentante
Madame
de la CFDT sur le conflit d'Air France et jouer aussi la division entre les pilotes, les pas pilotes, etc. Je trouve que là vraiment ils font très très fort. Donc la seule chose que je souhaite, c'est que par milliers il y a des adhérents de la CFDT par milliers qui commencent à se poser des questions et qui participent aux actions unitaires que la CGT et d'autres organisations syndicales, je pourrais en dire autant pour...
On va s'arrêter là. Alors la question est déjà robuste et nourrissante. Véronique Descac vous répond.
Oui, c'est une grande constante à la CGT. Ils s'imaginent que l'union syndicale, ça se fait chez eux ou ça se fait autour d'eux. Ils n'ont pas encore compris que la première organisation syndicale dans ce pays, c'est les salariés qui l'ont choisi, et les salariés du privé, ils ont choisi la CFDT. Non, c'est le problème n'est pas l'union ou pas l'union. Le problème est qu'est-ce qui est utile pour les salariés, qu'est-ce que les salariés nous demandent. Vous savez, on nous reproche souvent aux organisations syndicales d'être peu présents auprès des salariés des TPE, par exemple. Quand vous demandez aux salariés des TPE à quoi ils aspirent, de quoi ils ont besoin pour les défendre, ils vous disent quand même que l'image du syndicat qui manifeste avec sa veste rouge et son fumigène, c'est pas exactement ça dont ils ont besoin. Ils veulent pas de conflictualité dans l'entreprise. Ils veulent des gens pour les aider à conquérir des droits qui leur sont plus utiles, par exemple, à négocier pour eux que quand ils travaillent le dimanche, y compris quand ils sont dans une TPE, et ben d'abord c'est sur la base du volontariat, ensuite ils sont payés double, etc., etc. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, ça change quoi le syndicalisme ? Et pas, est-ce qu'il y aura des belles images à la télé le 1er mai ?
Retour au standard. Bonjour Manon, vous nous appelez de Paris.
Bonjour Nicolas, bonjour Madame Salamé, bonjour Madame Descac.
Bonjour.
Je suis complètement en ligne avec ce que vient de se dire Alain. Je suis choquée de ce que vous dites, de votre double discours sur le fait que ce gouvernement n'écoute pas, est technocratique, etc. Et de fait que vous n'ayez pas de cortège aujourd'hui. Donc ma question elle est très simple. Le 5 mai, il y a la fête à Macron qui est organisée par un personnage assez peu clivant, moins clivant en tout cas que Monsieur Mélenchon. Est-ce que vous allez participer à cette fête?
La fête à Macron, effectivement, le 5 mai. Merci Manon pour cette question. La fête qui est organisée par François Ruffin de la France Insoumise.
Oui, j'allais vous le dire, c'est un peu politique, hein, c'est même très politique la fête à Macron. Or nous, on n'est pas dans ce terrain-là, encore une fois. Nous, on est sur le champ du social, donc on défend les salariés, les travailleurs d'ailleurs, un peu au-delà des salariés. Et on ne s'engage pas dans un combat pour mettre à bas un président de la République ou faire tomber son gouvernement. C'est pas ça le sujet.
Mais la nature ayant horreur du vide, est-ce que vous ne voyez pas des mouvements politiques qui viennent justement sur votre terrain, le social, en cherchant à mobiliser ?
Non, parce que notre terrain, c'est celui du travail, de la proximité avec les gens qui travaillent, qu'ils soient travailleurs indépendants, qu'ils soient salariés, qu'ils soient agents de la fonction publique. Et vous pouvez leur demander à ces travailleurs-là ce dont ils ont besoin, encore une fois. Ils ont besoin d'avoir un meilleur accès à la formation professionnelle, d'avoir un meilleur accès à la complémentaire santé, par exemple. Ils ont besoin de choses concrètes comme ça dans leur vie.
Mais ils se disent peut-être aussi, la CFDT est orpheline, elle tend la main, personne ne la prend, allons à la fête à Macron.
Eh bien, moi, je crois justement que mais c'est un choix tactique, c'est un choix stratégique même de la part de la CFDT. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut donner en quelque sorte raison à Emmanuel Macron en disant bah, « on va continuer par plus fort à faire la démonstration de notre efficacité, allons manifester pour ne rien obtenir et juste dire qu'on n'est pas content ?»
Et vous allez, vous allez continuer
avec acharnement à faire des propositions, à parfois aboutir. On a obtenu par exemple dans les ordonnances l'augmentation des indemnités légales de licenciement, excusez-moi.
Mais vous allez continuer à l'attendre, vous allez continuer à l'attendre combien de temps la main ? Mais à quel moment ce sera stop ?
Eh ben, c'est stop. C'est stop. On n'arrête pas de dire stop et on obtient certaines victoires. D'abord dans les négociations un peu. Et puis, on obtient certaines victoires. Comme par exemple là, sur l'assurance chômage et la formation professionnelle, on est en train de faire la démonstration à ce gouvernement que s'il ne met pas les partenaires sociaux dans le jeu, leurs réformes ne fonctionneront pas. On partage l'objectif commun. Il y a un enjeu autour de la transformation des compétences si on veut lutter contre le chômage, ramener les 5 millions de demandeurs d'emploi et des précaires à l'emploi durable, etc. On partage cet objectif. Eux, ils nous disent, on va tout casser, ça va mieux aller. Nous, on leur dit, non, on peut faire des réformes, mais vous avez besoin de nous pour que ça marche. Eh bien, je pense qu'ils seront obligés, ils sont déjà obligés de faire attention à ce qu'on dit.
Merci Véronique Descac d'avoir été au micro de France Inter. Une petite question, c'est un monde macho, le monde des syndicats. Vous êtes rare à ce niveau de responsabilité.
Ouais, les secrétaires généraux, il y en a qu'un. Hein.
Ouais.
Et
ouais.
Laurent Le Berger est le meilleur d'entre nous. C'est un monde pas plus macho, celui de l'entreprise, mais c'est-à-dire pas moins non plus.
Pas moins non plus. Merci en tout cas d'avoir été au micro d'Inter ce matin. À suivre dans quelques instants, Léa, le carrefour du 7-9, édito-média, archives politiques, revue de presse.
Et humour avec Alex Pissorek.
À tout de suite.